Ribine. Le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Cette semaine, les ribines nous font remonter dans le temps et nous amènent jusqu'à un lieu insolite, Corrigouine, une communauté de femmes lesbiennes créée dans les années 90. J'ai tendu mon micro à Carole et Ilka, deux amies qui, chacune à leur manière, ont investi ce lieu extraordinaire.
Corrigouine jouit d'une situation plutôt idéale, située dans le sud de la Bretagne, isolée des autres fermes dans la commune de Kernas-Cléden, au bord de la forêt de Pont-Callec et de la rivière du Scorff, à environ 40 km de l'Atlantique. Nous vivons la spiritualité dans notre vie quotidienne, au rythme de la nature. Nous voulons nous détacher des structures qui nous font obstacle et rendre vivants anciens et nouveaux savoirs. Nous avons un mode de vie écologique qui veut dire végétarienne, biologique et souhaitant vivre de façon autonome.
Il est magnifique ce flyer.
On cherchait un nom, alors j'ai entendu des Corrigans. Je dis, c'est un joli nom pour un projet, Corrigan. Et alors ma copine Anne, elle a dit, ah non, c'est pas possible parce que des clubs de foot qui s'appellent Corrigan, c'est très masculin, en fait. Et comme je connaissais le nom, le mot Gwyn, de lesbienne, et Gwyn, ça veut dire aussi le vin en breton. Donc, on l'a transformé en Corrigouine. Mais on pensait quand même à des petites fées qui dansent autour
des
sources, des Corriganes.
On voit une photo avec une à l'extérieur. Chacune est torse nu, cinq lesbiennes. C'est le soleil, c'est l'été. On voit les calendulas en fleurs
dans le champ. Il y avait tout qui était fait par les femmes.
Alors moi je suis Ilka, je suis née à Berlin dans l'année 66 du dernier siècle. Le projet, je l'ai fait aussi, on avait acheté une ferme de 31 hectares pour créer un collectif écologique, féministe, lesbienne, un endroit pour vivre, surtout, en non-mixité.
Carole, elle est venue en vacances.
Curieuse de l'endroit, curieuse d'être dans une forme de nature, justement, de rencontrer une forme d'écoféminisme comme je l'avais déjà identifié et comme elle se présentait elle-même, et puis passer les vacances dans la nature. Puisque il était déjà acquis qu'on pouvait venir passer des vacances dans un champ avec une tente et être autonome et rencontrer les habitantes comme on le souhaitait. Et donc je suis venue là la première année, ça m'a bien plu. J'ai eu parfois des inquiétudes en me disant est-ce que cette radicalité va me convenir, mais ce n'était finalement que des vacances, donc ça me convenait bien. J'ai rencontré Ilka puisqu'elle faisait partie de ce collectif à l'époque quand je suis arrivée, j'identifiais 5-6 lesbiennes différentes. J'ai bien aimé l'endroit, j'ai bien aimé l'accueil, j'ai bien aimé ce qu'elle proposait comme autonomie. Et puis avec Ilka, on a plus développé une petite forme de relation amoureuse. On est tombé dans des sentiments amoureux, comme je le disais à l'époque. Et donc je suis revenue régulièrement après l'été. Donc j'ai rencontré Ilka comme une habitante de ce lieu, comme une lesbienne féministe de Berlin et comme une jeune personne enthousiaste dans le projet collectif qu'elles étaient toutes en train de créer. C'était en 94, j'ai fini en 59, donc j'avais 35 ans, 34 ans. J'y suis donc revenue et je me suis installée là. Et oui, c'était une façon de me soigner, mais pas seulement. Très vite, quand on est malade d'un cancer, on suit des traitements, on suit des radiothérapies. J'étais très accompagnée par presque chacune d'entre elles. Donc j'ai choisi ça. C'était un choix de me soigner de cette façon-là, de ne pas rester à Paris. C'était surtout cette énergie, cette force féministe lesbienne, spirituelle d'une certaine façon, qui m'encourageait à être là, parce que c'était comme ça que je sentais que j'allais guérir mon corps, que je souhaitais le faire.
Il y avait cette grande maison qui était intérieurement en mauvais état, mais qui était étanche. Donc on arrivait à la fin d'été et on avait tous des habitats. Moi, j'habitais dans une tente, par exemple. Mais au bout d'un moment, il a plu tellement qu'un matin, je me suis réveillée. Et puis le matelas sur lequel je dormais flottait presque. Mais normalement, on n'habitait pas dans la maison. Il y a chacune qui devait s'occuper de son habitation. On se nourrissait de bouillie de blé noir. Que c'est un agriculteur que j'avais rencontré qui cultivait du blé noir. Moi, j'avais mon moulin, alors on faisait du blé noir et on mangeait du pissenlit, surtout des racines en hiver.
On a cultivé du seigle, on a récolté à la main et qu'on a battu dans la cour. On a fait des grandes fêtes de battage et on avait un tarare. Et en fait, c'est relativement simple. Et du coup, la première année, on avait 1,5 tonnes de seigle sur un demi-hectare. Donc ça, c'est valable.
Après, tu le transformais en farine
Ouais, okay. Et en pain.
Ok.
Ouais, je faisais surtout du pain de seigle, ce qui n'était pas facile à vendre. Il y avait encore des anciens qui disaient « Ah, du pain noir !» qui aimaient bien ça, mais comme c'est un pain qui a été mangé pendant la guerre, plus avec un petit accent allemand, c'était pas toujours facile non plus.
on était allé chercher, toi et moi, le four à pain, ce four en métal sur pied, là. Il y a quelques photos, là, je les ai vues.
En Belgique.
C'était en Belgique.
Ouais.
Ça.
C'est
un four rond, un énorme four rond, 2 mètres de diamètre, 1 mètre de haut, avec une porte devant, et puis des pieds, parce que c'est en hauteur, et c'est un four à pain, c'est ça. On allait, lorsque j'étais là, régulièrement, acheter des légumes dans les biocopes qui existaient déjà.
Non.
Il y avait... Quand on allait à Quimperlé, là, en bas, là, il y avait...
C'était en haut.
En haut.
Je crois on est dans le coin un peu. On a fait le bonheur de tous les petits magasins bio parce que ça n'existait pas, des biocopes.
Il y avait celle de...
De Lorient, mais c'était pas encore une biocop, c'était un magasin bio.
Oui, absolument.
Et
la biocop
après. Ouais. Et il y avait d'autres petits magasins. Mais bon, on n'avait pas très longtemps de l'argent pour aller faire les courses.
C'est ça.
Non, je dirais pas. On a pas eu. On a eu des moments où c'était compliqué parce qu'on vraiment on mangeait beaucoup du bouilli de blé noir et des légumes sauvages. Et déjà l'hiver après, on avait tout ce qui était lacto-fermenté en quantité suffisante pour se nourrir. Et puis. J'ai déjà commencé à faire le pain. Alors, deuxième année, on avait des céréales, on avait toujours du pain.
La nourriture, c'était beaucoup, bien évidemment, basé sur les céréales et les légumes et les fruits, soit des légumes-fruits qui ont été achetés dans les débuts, quand il y avait encore un peu plus d'argent qu'à une certaine époque, où l'argent était plus difficile à trouver. Et il n'y avait Il y avait le choix aussi, bien évidemment, d'être dans le végétarisme et de ne pas manger d'animaux. Il y avait aussi une question autour de la cigarette et la terre n'était pas fumeuse. Il y avait un endroit qui était consacré aux fumeuses. Et ça, c'était formidable. C'est, même dans l'espace extérieur, même dans la cour, même dans la nature, on avait choisi de ne pas fumer. Par contre, bien évidemment, il y avait une place fumeuse qui parfois était the place to be. Et je crois que ça a participé beaucoup de mon plaisir d'être là, de comprendre que des lesbiennes en collectif, politiquement, pouvaient penser les normes sociales.
C'était ça aussi. L'écologie ne concernait absolument pas seulement la terre et les pratiques agricoles. C'était une écologie que, des comportements humains aussi. On avait décidé qu'il n'y a pas... c'était vraiment une interdiction d'alcool. Voilà, c'est quelque chose que avant tout, on veut dépasser. On se pardonne, mais on veut dépasser des comportements nocifs vers notre propre terre, qui est notre corps. Et on mangeait bien sûr pas de viande, parce que, comme j'avais déjà parlé de cette idée que les animaux sont exploités comme nous le sommes les femmes, dans un patriarcat. Et ça sonne peut-être bizarre, mais moi, je le sentais. Je venais comme tout le monde. J'ai grandi en tant que fille dans un patriarcat. Et à un moment donné, j'ai senti que le monde trouve que j'ai moins de valeur. Alors moi, intérieurement, j'étais stupéfaite parce que, comme chaque enfant peut-être, je me trouvais toute valeur, je voulais tout faire bien et j'ai bien réfléchi à tout ce que je faisais. Donc je le sentais dans ma chair, cette oppression. Et je sentais aussi l'oppression de la terre, l'oppression des animaux. Voilà, et puis du coup, c'était l'écologie sur tous les niveaux. C'était une écologie spirituelle, c'était une écologie agricole, c'était une écologie de la médecine et au quotidien, tout simplement.
De moi et que je me raconte. Déjà, j'ai 64 ans, ça veut dire que je suis née en 59, ça veut dire que je suis une enfant des années 60 et une adolescente des années 70 et une très jeune lesbienne des années 80. Je dis ça parce que c'est pas rien, je trouve, en ce moment. J'ai toujours eu un côté, je l'ai de plus en plus, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, de transmettre et de raconter des histoires de vie qui sont à la fois de l'intime, mais qui sont politiques aussi, justement, puisque révélatrices d'une pratique sociale, de lutte, de systèmes et de familles recomposées.
Une promesse aussi à cette terre de l'acheter pour la libérer des traitements chimiques, de la soumission, et on a eu tout cet argent comme ça, une grande somme trois semaines avant de devoir payer, mais on l'a eu, et puis voilà, on est arrivé là. À 6 entre-temps, on était 6, non, on était 8. Ce qui était important pour moi, c'est aussi de créer un lieu où des personnes avec des difficultés psychiatriques, psychologiques, dans des crises de vie, et surtout des lesbiennes, parce que trouve un endroit pour être protégée, pour se retrouver, pour participer justement à quelque chose qui est naturel, ça veut dire la terre qui nous porte, la terre qui nous nourrit, de retrouver un peu une stabilité. Parce que dans une psychiatrie, dans le temps, et je pense que ça doit exister encore aujourd'hui aussi, quand on était homosexuel, c'était ça la maladie. Alors une femme qui avait une psychose et qui était homosexuelle n'était pas traitée pour une psychose comme une femme hétérosexuelle. L'homosexuel était toujours la base de toute mal-être, maladie, de tout mal, en fait. Et comme nous, on savait très bien que c'est pas ça, on était saine d'esprit, on était plein d'amour. Moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais créer un endroit avec une dynamique saine pour des femmes homosexuelles. Je me rappelle, j'étais tellement fière d'être moi que je trouvais ça immonde d'être traitée comme quelque chose de malade, quelque chose de pas normal. Puis encore aujourd'hui, de patriarcal. Que le patriarcat, c'est pas seulement la soumission des femmes, mais c'est la soumission de la terre. Enfin, pour nous, ça allait tous ensemble, cette façon de produire et de produire et de produire. C'est vraiment comme, je sais pas, dans le temps, on s'est toujours dit, par exemple, si les vaches et les taureaux seront les plus fortes, ça sera les femmes dans les écuries qui étaient très pour faire une production de lait. Et on se comparait pas, mais on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas supporter la soumission de la femme, alors on ne peut pas supporter la soumission d'une vache à la production laitière, par exemple. C'était presque du ressenti. Et de là naissait la nécessité de vivre autrement. S'il faut vivre sur une planète patriarcale, il faut créer des petites bulles d'abord. D'autres choses.
J'ai envie de lire une nouvelle petite brochure que vous avez régulièrement écrite, rédigée, médiatisée, puisque c'était distribué aux visiteuses. Elles pouvaient repartir avec pour promouvoir l'endroit. Et ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez venir en vacances et suivre des stages toute l'année, soit en chambre, 50 francs la nuit, roulotte, caravane aménagée, camping, de mai à octobre, dans une grande prairie ensoleillée. Vous pourrez acheter le pain bio sur place, ainsi que du fromage de chèvre, des légumes et des céréales. Vous utiliserez des produits biodégradables pour la toilette, la vaisselle, le lavage. Farniente ou débroussaillage, tout est possible. Vous aimez les activités autour de la terre ? Du bois, des plantes, des matériaux, et vous aimez et savez utiliser les outils comme les clous, brouettes, gants de jardin, fourches, scies, pelles, arrosoirs, etc. Une ou plusieurs seront là pour faire avec vous, vous faire des propositions ou accepter les vôtres. Vous aimez lire, rêver, dormir, alors les outils sont là aussi.
On va dire, mon attachement à la terre et à la non-pollution était, je crois, très ancré en moi. C'était pas une idée forcément politique. J'avais besoin de toucher la vie, en fait. Déjà, de vivre avec la terre, de vivre aussi non-polluant que possible. Voilà. C'était pas un but, c'était la nécessité qui m'habitait et qui m'habite toujours. Moi j'étais sûre que si on avait le même but, on va pouvoir travailler ensemble. Si tout le monde
à cette envie de vivre avec la terre, de soigner la terre, de se nourrir de la terre. C'était intéressant de vraiment sentir, de savoir, et aussi pour d'autres, de voir que les femmes sont capables de tout, en fait. Il n'y a pas de biologie qui fait qu'on ne peut pas faire certaines choses. Ça, par exemple, c'était fort important. Une des raisons d'être là, si ce n'est pas la raison principale, c'est de vivre avec la terre, de cultiver, de se nourrir de la terre, de vivre avec la terre, avec des animaux, avec... Donc, effectivement, comme c'était assez isolé, ça veut dire les terres étaient regroupées tout autour de la ferme, on était souvent entre nous. Je me rappelle, on avait une factrice qui aimait beaucoup venir là, parce que sinon, il y avait toujours, quand il y a une voiture qui venait, alors comme il y avait beaucoup des femmes torse nu, quand le temps le permettait, et ben quand même, quand il y a une voiture, on se cachait un peu, ou on... voilà. Mais au bout d'un moment, plus quand c'était la factrice. Et elle nous a dit, elle aime beaucoup venir là, parce qu'elle voit tout le temps, on faisait des sculptures, du land art, on peut dire. Quand il y avait un arbre qui était mort, on ne l'a pas forcément coupé, mais on l'a décoré. Et que c'était aussi, je pense que c'est quand même aussi que c'était la Bretagne. Alors moi, relativement vite, je suis tombée éperdument amoureuse de la Bretagne, de la terre bretonne. Et aussi, même si on avait à ce moment-là pas beaucoup de contact avec... pas beaucoup, on avait quand même du contact avec les agriculteurs, et notamment les anciens... J'aimais beaucoup leur approche de la terre, leur humilité et leur acceptation, puisque quand ils sont venus chez nous, ils ont vu qu'on travaille comme eux. Et du coup, c'était pas seulement une bulle, c'était quand même un tout petit peu une bulle, mais je pense que c'était une phase nécessaire à la réparation de ce que peuvent subir des femmes et des lesbiennes de par leur rôle d'élever des enfants, rester à la maison. Et là, déjà, on n'avait pas d'enfants. Et puis, on faisait tout. On faisait tout et surtout, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Et on avait envie de vivre avec la terre. Donc, il y avait beaucoup d'engagement...
C'est une photo qui représente la fameuse maison en bois ronde que Ilka et les copines tentaient de monter, ont bien réussi à monter, jusqu'à ce que je crois que le toit pose problème pour les questions d'étanchéité, mais c'était un travail de charpentière. Et dans les terres lesbiennes, il y a eu beaucoup et souvent la question de construire soi-même avec le bois. Et ça existe encore toujours, et en Oregon, et dans le sud de la France, et donc à Corrigouine, de construire en bois, d'avoir ce rôle de charpentière. Voilà deux lesbiennes en train, une de coudre et l'autre d'écrire avec la main dans les cheveux. Une fois la cour nettoyée, nous faisons notre sauna. Là, on voit cinq lesbiennes sur un paysage magnifique, devant un bac d'eau en pleine nature, une est nue, tout le monde sourit, tout le monde se touche, se masse, tout le monde est contente d'avoir fait un sauna Schwitzhütte, comme on disait.
Ouais, hutte de sudation.
Hutte de sudation, ça, c'était formidable, ça.
On avait vraiment tout ce courage, on a vécu tout ça. Et chacune a quand même aussi ce bagage de son passé douloureuse, souvent. Parce que une lesbienne, dans le temps, surtout, c'était toujours en partie douloureuse. Parce qu'on est, On est exclu pour notre amour. Faut pas oublier ça. On n'est pas exclu parce qu'on a des grands pieds, ce qui pourrait être déjà assez horrible, mais on est exclu pour la façon dont on aime. Et donc, cette terre lesbienne était aussi la façon de vivre une normalité entre nous et être complètement nous, mais ça fait aussi ressurgir des blessures intimes et aussi des blessures, même si on veut sortir du patriarcat, cette système, elle est omniprésent. C'est la lutte de la plus forte. On ne peut pas s'en défaire juste parce qu'on en a envie.
Pour nous, Corrie Gwynne vit avec la vision de créer, réaliser et grandir à partir de la force des lesbiennes. Notre désir est que chaque lesbienne décide de ce qu'elle veut et peut donner. De la même façon que chacune décide de ce qu'elle veut et peut recevoir de Corrie Gwynne. C'est si difficile, et beaucoup disent toujours et encore que ce n'est pas possible. Pourtant, nous souhaitons que des lesbiennes qui passent du temps ici ressentent et sachent quelle valeur cela représente de pouvoir être sur une terre lesbienne qui a et offre tant d'espace. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cet endroit. Des mauvais aussi, mais comme partout, mais les bons souvenirs. Je crois que c'est la rencontre avec Ilka et à un moment de ma vie où c'était nécessaire, où on a développé une affection qui dure encore de façon différente et qui m'a permis, moi, de rencontrer un individu et un collectif.
C'était une très belle aventure, je dirais. La fin était bien dommage, mais ça n'empêche pas que c'était une aventure qui a eu bien lieu et qui a apporté beaucoup à plein de lesbiennes.
C'était Ribine, à retrouver sur radioévasion.net ou transistor.bzh.